la main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Karine, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Vous nous parlez ce matin du Saint-Paulia, c'est l'une des plantes d'intérieur les plus connues.
Hein. Oh oui, avec ses petites feuilles rondes et duveteuses et ses fleurs, le plus souvent bleues, roses ou blanches. Attention, il en existe rarement, mais elles existent, les petites fleurs jaunes.
Mmh. Alors est-ce que son nom a une connotation religieuse, Saint-Paulia ?
Eh oui, Saint-Paulia s'écrit en un seul mot, aucun rapport donc avec l'Église catholique. Le Saint-Paulia s'appelle ainsi, en l'honneur de Walter von Saint-Paul-Hiller, un amateur d'horticulture qui découvre en 1892 cette petite plante en Tanzanie.
Mmh. Est-ce que c'est aussi appelé violette du Cap ?
Oui, mais un nom qui peut être source de confusion, car si son appellation indique bien la région du monde où il pousse spontanément, la plante n'a rien d'une violette, mais absolument rien. Elle n'est même pas cousine avec la violette.
Mmh. Donc Afrique du Sud, hein, c'est ça ?
Ah, tout à fait.
Mmh. Alors le Saint-Paulia, est-il facile à entretenir quand on en a un ?
Oui, mais à condition de respecter quelques règles. On n'arrose jamais les feuilles. Dès que vous arrosez les feuilles, vous pouvez être sûr qu'elles vont pourrir. Donc, si d'aventure on fait une petite erreur, on les supprime. On le place en situation très lumineuse, mais jamais sous le soleil direct de midi. Oui, de midi à 15h, les plantes en été ne supportent pas. On place le pot, on rempote le pot tous les 3 ou 4 ans à peu près. La plante aime bien être un peu à l'étroit, donc quand le pot est petit, ce n'est pas très grave. Et on se souvient, et c'est important, qu'un Saint-Paulia heureux, et oui, est capable de vivre 25 ans.
C'est une plante un peu capricieuse quand même. Enfin, je veux dire, il y a des règles assez strictes.
Il y a quelques règles à respecter. N'hésitez pas, quand vous le rempotez, à changer vraiment le maximum de terreau. Mmh. Hein. Mais comme je vous ai dit, pas de soleil direct, mais une belle luminosité. Arrosage régulier. On réduit en automne et en hiver. Mais c'est une petite plante qui a toute sa place dans les compositions florales qu'on offrira à Noël.
Vos bons conseils à présent, Alain Baraton. Hélène a un prunier qui n'a donné aucune prune cette année. Il n'a plus que quelques feuilles. Elle vous demande, Hélène, Alain Baraton, faut-il le tailler, ce prunier, pour qu'il reparte l'année prochaine ?
Dans la fruticulture, il y a un terme que j'aime bien et qui, Karine, doit vous rappeler vos entretiens politiques. On parle d'alternance. Eh bien, il y a, chez les arbres fruitiers, de l'alternance. Cette année, certaines années, avec quantité de fruits...
Mais alors, on dit que ce n'est pas une année à prunes.
Eh bien, oui, tout à fait.
Et ce n'était pas une année à prunes.
Le bon sens paysan. Et vous avez bien raison. Eh bien, de temps en temps, donc, le fruitier donne quantité de prunes. Et d'autres années, pas du tout. Si on doit tailler... J'aime pas tellement tailler les pruniers, mais si on doit le faire, on le fera toujours quand l'année a été très mauvaise. Là, on peut effectivement tailler, c'est maintenant qu'il faut le faire.
Mais je croyais pas qu'on taillait des arbres à fruits.
On peut les tailler, mais pas tous. Le cerisier, le noyer détestent la taille. Le prunier, moyen. Mais là, si vraiment la plante est en train de dépérir, on peut lui faire une petite taille de rajeunissement. Mais on y va doucement. Je n'expliquerai pas ici, c'est trop complexe. Allez dans les ouvrages horticoles, ils servent à ça. Mais on peut effectivement tailler quelque peu un prunier qui donne quelques signes de vieillissement.
À propos d'un pin maritime à présent, François a un pin maritime d'une dizaine d'années. Il mesure plus de 10 mètres de haut, mais il perd toutes ses aiguilles. Il devient de plus en plus sec et marron à l'intérieur. Est-ce que c'est grave, docteur ?
Déjà, je doute que l'on puisse atteindre pour un pin maritime en 10 ans 10 mètres de hauteur. En 10 mètres de hauteur, c'est à peu près une vingtaine d'années, c'est quand même le double. Ce que je sais, par expérience, c'est que lorsqu'un conifère jaunit, lorsque ses aiguilles deviennent jaunes et tombent, je ne connais pas de méthode qui lui permette de reverdir. Il y a donc un problème où, dans l'air peut-être, dans le sol certainement, mais je ne connais pas de technique.
Non.
Peut-être qu'il y a des insectes xylophages, quoique le pin a une méthode assez radicale pour se soulager d'une agression d'une bestiole xylophage. Dès que la bête est dans le trou dans l'écorce et qu'elle creuse une galerie, elle inonde la galerie de résine pour neutraliser ainsi l'agresseur. Mais il peut y avoir, par contre, effectivement, des araignées rouges, il peut y avoir des champignons, on parle de la maladie du dessèchement des conifères, il peut y avoir l'abus du sel en hiver pour faire fondre la glace sur la route. Il y a quantité de raisons qui aujourd'hui justifient le dessèchement des conifères. Pas de technique pour leur permettre de rester vert. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire.
Donc on est un peu coincé, il faudra peut-être couper.
Peut-être couper, à surveiller, mais souvent il y a un problème dans la terre. Regardez bien au niveau du sol ce qui se passe.
Un autre arbre à présent, le marronnier de Jacques, planté en mai dernier. Le marronnier, hein, pas Jacques. Le marronnier présente des feuilles qui ont un aspect partiellement brunâtre. Certaines sont comme déchiquetées. De quelle maladie peut-il s'agir ?
Chancre bactérien ou alors une attaque cryptogamique. Le marronnier est une plante très très fragilisé depuis quelques années. On le voit bien, dès le mois de juillet, les feuilles rougissent, jaunissent, tombent prématurément. C'est pas un arbre de culture facile. Je pense même que le marronnier, gentiment, est en train de quitter la France.
Pays... C'est ce que vous disiez il y a quelques années
déjà. Je ne cesse de le dire.
C'est la sécheresse ? Enfin, je veux dire, c'est le...
La sécheresse, c'est une plante qui n'a été introduite en France qu'en 1614. La date est précise. Et je crois que malgré tous nos efforts, eh bien, il ne s'habitue pas véritablement. La mineuse est arrivée depuis quelques temps. La mineuse, c'est un petit papillon qui adore nuire aux marronniers, mais dans son pays d'origine, la Grèce et l'Albanie, il n'y a pas de problème, il y a les prédateurs. En France, c'est un peu plus compliqué. Mais planter aujourd'hui des marronniers, bah, c'est peut-être le comble de l'optimisme, et tant mieux.
Le chêne de Gilles, à présent, pour des questions de sécurité, un élagueur a relevé ce qu'on appelle la couronne du chêne. Et j'ai l'impression, dit Gilles, qu'on a réduit aussi sa voilure et qu'il a mieux supporté la canicule. Alain Baraton, est-ce que vous avez un avis là-dessus ?
Si on vous supprimait demain, Eric, la moitié de vos poumons, je ne suis pas convaincu que vous porteriez mieux. Les feuilles ont besoin d'être en nombre sur un arbre car elles pratiquent la photosynthèse. Elles permettent à l'arbre de respirer, de transpirer, de se nourrir. Réduire la voilure d'un chêne, c'est le condamner à une mort certaine. Alors pas tout de suite, parce qu'un chêne a une espérance de vie énorme. L'un des chênes les plus vieux de France a 1800 ans. Il vit en Charente-Maritime, vous voyez qu'il y a de la marge. Mais on ne coupe pas, on ne taille pas un arbre. Oui, bien sûr, en réduisant le nombre de feuilles, on réduit les besoins en eau. Mais pendant combien de temps cet arbre va-t-il accepter ainsi d'être handicapé d'une partie de son branchage ? Je dirais affaire à suivre, mais je n'aime pas que les chênes soient taillés.
Ça veut dire quoi, avoir relevé la couronne du chêne.
Alors, on parle souvent du remontage du houppier, ce qui veut dire que vous avez un tronc d'où s'échappent les branches qui vont constituer la ramure. Et le remontage de la couronne, c'est couper les branches les plus basses au niveau du sol pour remonter l'ensemble de la ramure. Et souvent, on le fait souvent dans les parcs et jardins pour donner une allure à un alignement, par exemple. On peut le faire de temps en temps, mais je rappelle que réduire la voilure d'un chêne n'est pas bon pour le chêne.
Rapidement, la question de Romain, ai-je le droit de couper du gui qui pousse sur la branche d'un arbre planté chez mon voisin, mais qui se situe au-dessus de chez moi, dans mon jardin?
Je pense que c'est comme pour un fruit. Quand vous avez la branche du pommier qui donne sur votre jardin, vous ne pouvez récupérer la pomme que si elle tombe naturellement. Vous n'avez pas le droit de l'accueillir. Je crois qu'il doit en
être... Oui, mais le gui, il faut l'enlever, c'est un parasite.
La loi oblige le propriétaire à couper le gui. Vous pouvez donc demander au voisin de le couper lui-même.
Le propriétaire et lui dire, il faut couper le gui. Okay.
Et à propos de gui, ça tombe bien parce qu'il en parle, Alain Bougrain-Dubourg, dans son dictionnaire amoureux des oiseaux. Le livre que je conseille aujourd'hui, qui est publié chez Plon, il parle des oiseaux, qui est vraiment son domaine d'activité. Il en parle bien et il parle du gui. Il explique
président
tout sur
le
gui. Tout à fait. Quelqu'un vraiment un courageux dans son action que je salue.
Alain Baraton, jardinier de Versailles.